Cet article vous est proposé par l'AFIS, Association française pour l'information scientifique. Retrouvez les références ainsi que des encadrés complémentaires, dans la version texte, sur le site afis.org.
Ventouse, hijama, cupping, une pratique thérapeutique à la mode sans preuve scientifique. Le traitement par ventouse, aussi appelé ventousothérapie ou cupping, qui est le nom historique de la pratique en anglais, consiste à placer des récipients en forme de cloche sur la peau et à y créer une dépression pour provoquer un effet de suction, soit en chauffant l'air dans la cloche avant de la poser, car en refroidissant, l'air occupe un volume moindre, soit en y aspirant l'air avec une pompe. Certains leur attribuent de nombreuses vertus, mais elles sont surtout utilisées contre les douleurs musculo-squelettiques et sont alors généralement appliquées en regard de la zone douloureuse et dans une moindre mesure pour les maladies respiratoires.
D'où vient cette pratique ?
Le recours à des ventouses en médecine est généralement présenté comme très ancien et de nombreux sites internet qui en font la promotion évoquent la Mésopotamie et l'Égypte antique. Le papyrus Ebers est ainsi souvent cité, y compris dans des articles scientifiques. Il remonte au XVIe siècle avant notre ère et compile de nombreuses préparations médicinales égyptiennes. Mais il ne semble pas y avoir de mention de ventouses dans les traductions en anglais et en allemand. Des instruments médicaux, dont de possibles ventouses, apparaissent sur les bas-reliefs du temple de Komombo, en Égypte. Mais celui-ci est bien plus tardif, construit sous domination grecque au IIe et Ier siècle avant notre ère. En fait, les premières traces écrites en Occident proviennent du Corpus Hippocratique, rédigé par Hippocrate et son entourage lors des 5e et 4e siècles avant notre ère, notamment dans un traité difficile à dater qui explique la méthode. Mais Aulus Cornelius Celsius, connu sous le nom de Cels, un médecin romain du 1er siècle, détaille bien plus leur usage. Il décrit notamment des ventouses en cuivre où le vide est fait avec une mèche enflammée et des ventouses en corne où l'air est aspiré à la bouche. Dans son texte, leur utilisation s'intègre dans la théorie des humeurs, qui postule que la santé dépend de l'équilibre entre quatre fluides corporels, le sang, le phlegme, la bile jaune et la bile noire, correspondant chacun à l'un des quatre éléments, respectivement l'air, l'eau, le feu et la terre. Les ventouses serviraient à rééquilibrer ces quatre fluides, soit en aspirant l'air sur une peau intacte, soit en aspirant le sang sur une peau préalablement scarifiée à l'aide d'une petite lame. Ces deux versions, avec ou sans incision de la peau, sont respectivement nommées ventouses sèches et ventouses humides, car ces dernières font sortir du sang. Au Moyen Âge, les ventouses humides étaient comparées aux saignées et à l'utilisation des sangsues, les trois étant motivées par la théorie des humeurs, avec pour objectif d'évacuer un supposé excès de sang. Les ventouses humides étaient assez peu utilisées en Europe comparées à la saignée et aux sangsues, mais elles étaient très utilisées dans le monde arabo-musulman sous le nom de hijama. Celle-ci est d'ailleurs un élément central d'une forme de médecine religieuse nommée médecine prophétique, basée sur la tradition musulmane et qui, en plus des ventouses, se sert d'incantations, de remèdes variés et même de pratiques d'exorcisme, encore de nos jours.
En Chine, la première trace écrite de ventouse vient du Wuxi Er Bing Fang, un traité médical découvert dans une des tombes du site de Mawangdui, scellé en 168 avant notre ère. Les ventouses en corne y sont présentées comme un traitement des hémorroïdes, mais semblent surtout servir à aspirer l'hémorroïde pour ensuite l'inciser. Par la suite, les ventouses ont été pleinement incluses dans la théorie de la médecine traditionnelle chinoise, où elles sont censées lever les stases de qi et de sang, donc dans une optique similaire à la théorie des humeurs. Au cours du temps, ont été utilisées des ventouses en bambou, puis en verre. Par la suite, en Occident comme en Chine, la pratique des ventouses n'a jamais disparu, mais son usage a fluctué et a fortement régressé avec l'avènement de la médecine moderne, même si on en trouve des traces en médecine conventionnelle en France jusqu'au milieu du XXe siècle.
La pratique de nos jours en France. En France, en 2023, 4% des Français déclaraient avoir déjà eu recours aux ventouses. Il est en revanche difficile de savoir combien de praticiens exercent les ventouses, surtout qu'elles sont rarement utilisées seules. Les annuaires de pratiques de soins non conventionnels montrent ainsi qu'elles sont intégrées parmi d'autres actes par des praticiens de naturopathie, de médecine religieuse musulmane, de médecine traditionnelle chinoise ou d'ostéopathie, par exemple. Les ventouses sont aussi utilisées dans le sport de haut niveau, avec pour objectif affiché d'améliorer la récupération musculaire, voire d'améliorer les performances sportives. Ceci a particulièrement été mis sur le devant de la scène lors des Jeux Olympiques de 2016, et on l'a notamment constaté en natation, où les ecchymoses lésées sur le dos par les ventouses étaient très visibles. C'était en particulier le cas de Michael Phelps, qui lors de ces Jeux avait gagné 6 médailles olympiques dont 5 en or, offrant à cette pratique une importante publicité. Même si les ventouses ont été utilisées dans d'autres sports et à d'autres périodes, il y a vraiment eu un pic d'intérêt lors de l'été 2016, comme en témoignent les nombreux articles de journaux sur le phénomène, ainsi que la fréquence de recherche du mot « cupping » sur Google, y compris depuis la France.
Cette mode peut d'ailleurs être comparée à celle du bracelet Power Balance en 2010, un bracelet à hologramme qui avait lui aussi été à un moment très utilisé dans le monde du sport, sans la moindre preuve d'efficacité.
Les traitements par ventouse sont-ils autorisés en France ? La pratique est en partie légale en France, mais avec des subtilités, notamment concernant la hijama, car les incisions de la peau destinées à aspirer du sang sont un acte invasif. Il faut en effet bien distinguer ventouses sèches et humides, qui n'ont pas les mêmes effets secondaires. Pour les ventouses sèches, ils sont souvent bénins. Ecchymose systématique, douleurs et raideurs locales, aggravation temporaire des douleurs ayant motivé les ventouses, parfois brûlures. Pas avec les ventouses mécaniques, uniquement avec les ventouses chauffées. À l'exemple, si de l'alcool est versé, si le coton enflammé tombe sur le patient, ou si le verre des ventouses est trop chauffé. Pour les ventouses humides, qui en France sont surtout utilisées dans le cadre de la hijama, cela peut être plus grave, car à cause des incisions, il y a aussi le risque d'infection locale, abcès, cellulite, fascite, nécrosante, d'infection disséminée et de transmission du VIH ou des hépatites B et C. Tout cela en cas de mauvaise stérilisation des instruments. Le risque d'anémie est parfois évoqué, mais paraît peu probable, car les volumes de sang prélevés sont très faibles, sauf peut-être en cas de répétition.
Un rapport du Conseil national de l'Ordre des médecins du 27 juin 2023 explique que l'effraction cutanée est un acte réservé au seul médecin. La jurisprudence correctionnelle précise que la pose de ventouse, issue d'un diagnostic dans le but d'un traitement thérapeutique, constitue à ce titre un acte médical réservé au seul médecin. Il y a déjà eu en France des condamnations de pratiquants de la hijama, y compris des professionnels de santé, pour exercice illégal de la médecine, avec par exemple la condamnation à une amende et à de la prison avec sursis pour 3 infirmiers marseillais en janvier 2024, avec dans la même affaire la condamnation pour complicité d'exercice illégal de la médecine pour un médecin. Les ventouses sèches ne sont pas invasives et peuvent donc être utilisées par des personnes qui ne sont pas professionnelles de santé, mais dans ce cas uniquement à visée de massage et de bien-être. En effet, poser un diagnostic ou traiter une maladie est aussi considéré comme un acte réservé à certains professionnels de santé, comme précisé dans le même rapport. Un avis du Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes du 18 mars 2021 interdit explicitement la pratique aux kinésithérapeutes. La pratique des ventouses étant à ce jour insuffisamment éprouvée et faisant courir aux patients un risque injusticié de lésions, saignements, brûlures, etc., le kinésithérapeute ne peut proposer ce procédé, conformément aux dispositions des articles R43-21-87 et R43-21-88 du Code de la Santé publique. Les articles cités sont ceux interdisant de proposer des traitements illusoires ou insuffisamment éprouvés et interdisant la charlatanerie. Dans un autre avis, le Conseil précise toutefois que la vacuothérapie, le fait de masser cicatrices avec des ventouses pour les assouplir, reste autorisée, mais uniquement avec des ventouses mécaniques, car les ventouses en verre exposent un risque de brûlure.
Le rapport de l'Ordre des médecins cité plus haut n'interdit pas la pratique des ventouses aux médecins, mais rappelle tout de même le code de déontologie médicale, inscrit dans le code de santé publique. Les médecins doivent aux patients des soins consciencieux et basés sur les données acquises de la science, article 32. Il leur est interdit de proposer des traitements insuffisamment éprouvés, article 14, la pratique du charlatanisme, article 39, et de faire courir aux patients un risque injustifié, article 40. Quelle efficacité médicale ?
Les ventouses ont fait l'objet de nombreuses études, notamment en Chine et au Proche-Orient, essentiellement dans le cadre de douleurs musculo-squelettiques. Une étude de cartographie de preuves a fait en 2023 une synthèse de la bibliographie sur l'effet des ventouses contre différents types de douleurs. La qualité des preuves en faveur des ventouses était jugée très faible à modérée, selon les indications. La qualité des méta-analyses sur le sujet était elle-même considérée comme mauvaise. Une seule des 14 évaluées était considérée de haute qualité, et une seule autre de qualité moyenne. La méta-analyse jugée de haute qualité a été publiée en 2020 et évaluait l'efficacité des ventouses contre tout type de douleur chronique. Elle montrait que les études étaient de faible qualité, avec donc un important risque de biais, et mettait en évidence un effet des ventouses par rapport à l'absence de traitement, mais aucun effet par rapport à un placebo, le placebo étant dans ce contexte des ventouses placées sur la peau mais sans vraie aspiration. La méta-analyse jugée de qualité moyenne a été publiée en 2017 et évaluait l'efficacité contre les douleurs d'arthrose de genou. 7 essais cliniques ont été examinés, tous considérés comme de faible qualité, à haut risque de biais et sans groupe contrôle correct. Elle concluait que les preuves d'efficacité étaient faibles. Plus récemment, une méta-analyse publiée en 2024 a inclus 11 essais contrôlés randomisés, portant sur un total de 921 patients atteints de douleurs lombaires.
Elle montrait une efficacité en fin de traitement qui durait 2 à 8 semaines selon les études, mais pas lors du suivi à 1, 3 ou 6 mois. Et parmi les 11 études incluses, seules 3 étaient en double aveugle, dont seulement 2 avec un contrôle par placebo, la troisième comparant 2 techniques de ventouse humide différentes. De ces 2 études-là, une seule montrait un effet, mais modeste, puisque les patients traités avec des ventouses placebo décrivaient une amélioration à peine moins marquée, et sur un groupe réduit de seulement 37 participants ayant une moyenne d'âge très faible de 25 ans, contre 90 participants dans celles ne montrant aucun effet, avec une moyenne d'âge à peine plus haute à 31 ans.
En somme, la littérature scientifique montre un effet des ventouses contre différents types de douleurs, mais uniquement sur la base d'études et de méta-analyses de faible qualité, et surtout lorsque les études comparent les ventouses à une absence complète de prise en charge. Tout cela montre donc qu'il n'existe pas de preuves suffisantes pour justifier l'usage des ventouses, et que s'il existe un effet, il est probablement uniquement placebo. Dans le cadre de la récupération physique chez les sportifs, les preuves d'efficacité sont là aussi minces. Études de faible qualité, sur de petits effectifs, sans double aveugle, souvent sans groupe contrôle correct. Par exemple, une méta-analyse de 2023 incluant 22 études concluait à une efficacité, mais avec un niveau de preuve faible à modéré selon les critères retenus. Une étude contre placebo chez 40 baseballeurs montrait en février 2025 une efficacité modeste sur certains des critères, mais pas sur d'autres. Dans l'ensemble, rien ne prouve là non plus à ce jour qu'il y ait autre chose qu'un effet placebo. Concernant les affections respiratoires, il y a très peu d'études et elles ne sont pas fiables. Un essai clinique de 2021 montre un faible effet dans l'asthme, mais sur la base d'un auto-questionnaire et sans comparaison avec un traitement placebo. Un essai clinique de 2021 évaluait l'effet des ventouses sur la bronchite chronique, mais en les comparant à la saignée. Conclusion. Un communiqué de l'INSERM résume ainsi le sujet. Le nombre d'études cliniques réalisées, ainsi que la qualité globale de ces études, reposant souvent sur des petits échantillons de participants, ne constituent pas de preuves scientifiques suffisantes pour attester de l'efficacité de cette thérapie dans la gestion de la douleur, ni sur la fatigue musculaire. Pire, les effets néfastes, eux, sont documentés si la technique est mal utilisée. Rien ne permet donc d'en recommander l'usage, quel que soit le contexte. Les ventouses sont essentiellement utilisées contre des symptômes subjectifs, accessibles à l'effet placebo, douleur, fatigue, anxiété, insomnie, etc. Et beaucoup leur attribuent des vertus fantaisistes, comme les prétendus effets de détoxification ou de stimulation de l'immunité, qui ne sont pas des concepts valides en médecine, ou difficilement vérifiables, amélioration de la circulation sanguine, effet anti-inflammatoire, effet drainant. Mais elles sont aussi parfois proposées contre des maladies plus graves, avec le risque de se substituer à un traitement réellement efficace, par exemple dans de nombreuses maladies pulmonaires, y compris l'asthme, l'hypertension artérielle, voire par exemple le diabète, voire par exemple la dépression, ou encore certaines maladies auto-immunes, voire par exemple.
Il est donc important, comme avec n'importe quelle autre pratique non conventionnelle, de faire attention à ce que l'usage des ventouses ne remplace pas un traitement efficace et éprouvé.